Radio Capi.
Oh, Capi.
Et voici la grande édition de nos informations dominicales vespérales. C'est avec Jocelyne Moussaou.
En marge du sommet de l'Union africaine, les chefs d'État de l'EAC se sont réunis vendredi à Addis Abeba. Ils ont réitéré l'appel à la cessation des hostilités, notamment les attaques du M23 contre les FARDC et la MONUSCO. La route reliant la nationale numéro 1 au chef-lieu du territoire de Massimanimba, menacée par des têtes d'érosion, la société civile plaide pour la construction des caniveaux à cet endroit. Mero Awangasi, coordonnateur des affaires civiles de la MONUSCO, a béni notre invité. Il parlera de la fermeture de la base militaire de la MONUSCO à Mutuanga. Bonsoir à tous. Les chefs d'État et de gouvernement de l'EAC réunis à Addis Abeba vendredi ont réitéré l'appel à la cessation des hostilités, en particulier les attaques du mouvement rebelle M23 contre les FARDC et la MONUSCO. Réunis en marge du sommet de l'Union africaine, les chefs d'État de l'EAC ont mis l'accent, entre autres, sur le respect des dates établies par le chef d'état-major de l'EAC à Nairobi le 9 février dernier, mais aussi les déploiements complet de la force régionale et la mise en œuvre rapide de son mandat. Notez que ce communiqué a été signé par toutes les parties présentes à ce sommet. Les détails avec Sifamago.
Le mini-sommet des chefs d'État a réitéré la nécessité de la mise sur pied d'un plan conjoint de résolution de la crise sécuritaire à l'Est en tant que principal instrument pour la désescalade des tensions et normalisation des relations politico-diplomatiques entre la RDC et le Rwanda. Le même communiqué revient sur le cantonnement et le désarmement des rebelles du M23 sur les territoires congolais sous le contrôle des autorités congolaises, de la force régionale, du mécanisme de vérification ad hoc et la MONUSCO, le retour des déplacés dans leur milieu d'origine ainsi que les réfugiés congolais qui se trouvent au Rwanda figurent parmi les points évoqués. Les chefs d'État ont mandaté la République d'Angola, en collaboration avec les facilitateurs désignés de l'EAC, Uhuru Kenyatta, de contacter les commandements du M23 afin de transmettre les décisions du mini-sommet d'Addis Abeba.
Toujours en marge du sommet de l'Union africaine, notez que la RDC a été choisie par le chef d'État africain pour prendre la direction du Centre africain pour la surveillance et la prévention des maladies, CDC en sigle. À l'issue d'un vote de chef d'État hier samedi, le candidat du président Félix Tshisekedi a été préféré à son concurrent guinéen. Docteur Jean Kaseya, 53 ans, a survécu à une sélection intellectuelle de 180 candidats au départ, puis deux candidatures en phase finale. Il remplace à ce poste le Camerounais Kenga Song. Ainsi, Dr Jean Kaseya devient le directeur du CDC après une longue lutte diplomatique menée depuis 6 mois par le président Félix Tshisekedi, précise un communiqué de la cellule de communication présidentielle. Suivez les premières impressions du Dr Jean Kaseya après son vote.
C'était une longue bataille qui a commencé depuis le mois de juin. C'est le président Tshisekedi qui a cru en nous avec tout son gouvernement et nous le remercions beaucoup. Il y avait 180 candidats au total. Il restait 2 candidats et les chefs d'État africains ont voté en notre faveur. Ça signifie que c'est une diplomatie agissante, agressive et qui n'a pas fait dormir et les chefs de l'État et le ministre Lutundula et le ministre Mbungani et tous les autres membres du gouvernement qui nous ont soutenus. On est fiers pour la nation congolaise. Un pays qui a une diplomatie agissante doit placer les gens à un haut niveau des organisations internationales. Pendant ce moment que notre pays traverse avec la crise de l'Est, comme l'on sait, ça donne l'espoir de dire que notre diplomatie va de l'avant. C'est quelque chose de très encourageant. Ça va aussi encourager beaucoup d'autres Congolais qui sont des milliers, même plus qualifiés que moi dans différents domaines, d'avoir aussi des postes encore importants dans les organisations internationales.
Le CDC est la plus grande organisation sanitaire d'Afrique basée à Addis Abeba. Elle a été très active dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 en Afrique. Et sa direction est la plus grande fonction permanente que la RDC occupe désormais après le passage de Gérard Kamanda comme secrétaire général de la défunte OUA en 1972. Ici au pays, à Béni, les acteurs de la société civile dans ses diversités ont été en face du rapporteur adjoint de la CENI hier samedi. Objectif, avoir des éclaircissements sur les opérations d'enrôlement des électeurs et tous les processus électoraux pour le cas particulier de la région de Béni, encore sous menace sécuritaire. Au sortir de cette séance des échanges, les acteurs de la société civile disent avoir des matières suffisantes pour la sensibilisation de la population invitée à se faire enrôler. Massivement, Richard Kirimba, premier vice-président de la société civile Force Vive, coordination du territoire de Béni, s'exprime au micro de Marc Marofimbo.
Nous étions désensibilisés les gens à se faire enrôler. Mais dans notre sensibilisation, il manquait certaines précisions. Et grâce à cette rencontre, nous venons d'avoir beaucoup de précisions, notamment par rapport à la qualité de la carte d'électeur. Dès qu'on l'obtient, il ne faut pas la plastifier parce que ça va détruire les écrits là-dessus. Comme elle-même, elle est déjà plastifiée, inutile de la plastifier. Là, ce sont des détails qu'on ne savait pas. Nous venons d'être fixés par rapport au sort des déplacés. Le territoire de Benia, Nebidicio, vous le savez, personne ne l'ignore. Et nous sommes satisfaits, surtout nous, la coordination du territoire de Béni, de savoir qu'il y a deux centres d'enrôlement qui sont institués en ville de Béni pour notamment recevoir les déplacés venant de l'axe Rwenzori et d'autres venant de l'axe Benimbao. Et qu'à Butembo va être institué un autre centre qui va recevoir les déplacés venant de la chefferie de Bachou. Et nous, la société civile, nous avions besoin de tous ces éléments pour compléter notre paquet de matières à sensibilisation. C'est une activité très importante, l'enrôlement des électeurs, mais un défi, c'est l'insécurité.
Toujours au Nord Kivu, le gouverneur de province, le lieutenant-général Constant Ndima, appelle la population de sa juridiction à bannir tout acte de stigmatisation et l'encourage à la tolérance pendant cette période d'enrôlement des électeurs. Dans un communiqué officiel rendu public hier samedi, le gouverneur rappelle à la population que tout acte d'exclusion à l'endroit d'une quelconque communauté perturberait le processus en cours et faciliterait le jeu de l'ennemi. Un extrait de la lecture de ce communiqué lu par son porte-parole, le lieutenant-colonel Njike Kaiko.
Vu le moment de tension que traverse la province du Nord Kivu suite à la guerre menée par le M23 par RDF, son excellence, monsieur le gouverneur militaire, le lieutenant-général Ndima Komba Konsto, appelle la population de sa juridiction à bannir toute stigmatisation et à se tolérer mutuellement pendant cette période d'enrôlement. L'autorité provinciale rappelle que tout acte de stigmatisation et d'exclusion à l'endroit d'une quelconque communauté perturberait le processus d'enrôlement en cours et faciliterait le jeu de l'ennemi, car c'est dans l'unité que nous vaincrons ce dernier. Toutefois, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur militaire, en appelle à la vigilance de tous les services de sécurité et les bureaux de la CENI déployés en province, de tout mettre en œuvre afin d'empêcher aux intrus de s'enrôler pour s'octroyer frauduleusement l'identité RD congolaise.
Rappelons que depuis la crise sécuritaire qui s'observe dans le Nord Kivu, on enregistre de plus en plus des cas d'intolérance dans la communauté et particulièrement par rapport à l'enrôlement des électeurs. Au sud Kivu, à la prison centrale de Bukavu, ils ont été libérés hier samedi. C'était en présence d'un représentant du gouverneur de province et du chef des divisions de la justice. Pour le représentant du gouverneur, le président de la République, magistrat suprême, a fait un geste de pardon, de justice, de clémence à 116 détenus de la prison centrale de Bukavu, selon que chacun a fait preuve de bonne conduite dans cette maison carcérale. Les prisonniers graciés ont purgé le trois quarts de leur peine. Cette mesure de grâce contribue à désengorger la prison centrale de Bukavu, qui connaît actuellement une surpopulation des détenus. Venons-en à présent à cette nouvelle. Les maisons et les boutiques situées le long de la route qui relie la nationale numéro 1 au chef-lieu du territoire de Massimanimba risquent de s'écrouler à cause des érosions et les pluies qui s'abattent ces derniers temps sur cette partie de la province du Kulu aggravent la situation. Cette route est devenue impraticable selon un membre de la société civile locale, Boniface Mimbou, qui alerte. Il ajoute que la RN1 est aussi sur le point de se coupé en deux à ces niveaux à cause de ces érosions. Il plaide pour une lutte anti-érosive en construisant des caniveaux afin de canaliser les eaux des pluies. Boniface Mimbou est joint par Irène Boma.
La route qui nous relie du RM1 jusqu'au territoire de Massimanimba est vraiment à l'état de délabrement. Donc, des maisons et des boutiques sont en menace des érosions. Cette route-là est impraticable. Alors, je lance un coup d'alarme aux filles et fils du territoire de Massimanimba de venir en aide pour cette route-là. Sinon, nous allons perdre des maisons et des boutiques qui sont le long de cette route-là. La conséquence sera que les gens n'iront plus vers le territoire de Massimanimba. On aura une coupure. Si cette érosion continue, ça risque aussi d'attaquer la RM1. C'est pourquoi nous lançons cette cri d'alarme. Et pour le moment, il n'y a pas vraiment l'accès pour que les gens puissent passer, aller vers les chefs-lieux du territoire de Massimanimba. Bien qu'avec les efforts de l'administrateur du territoire, avec les agents, la situation fait que s'aggraver. Nous demandons que les hommes de bonne foi puissent mettre des canaux pour diriger de l'eau, de la pluie, pour que les drames ne puissent plus arriver là-bas.
Dans la province de la Tchopo, les habitants des blocs Kikongo et Kachuya, dans la commune de Kisangani, peuvent pousser un ouf de soulagement. Ces entités sont désormais désenclavées grâce au pont Kachuya, jeté sur la rivière du même nom. Cet ouvrage a été inauguré hier samedi par l'autorité provinciale Madeleine Nikomba Sabangu. Le point avec Jacques Nkonkole.
C'est un pont en béton armé jeté sur la rivière Kachuya, long de 18 mètres sur 5, sa capacité est de 20 tonnes. Il a été construit sur fonds propres du gouvernement provincial par une entreprise dénommée Société d'études, conception et exécution des travaux en informatique et en génie civil. Grâce à cet ouvrage, les habitants des blocs Kikongo et Kachuya peuvent désormais rejoindre les deux rives de cette rivière. Chose impossible autrefois, après avoir rendu hommage au chef de l'État pour son leadership managérial dans l'amélioration des infrastructures de base, Madeleine Nikomba a rappelé l'importance de ce pont et a lancé un message à la population.
Cet ouvrage permet le désenclavement d'une part le bloc Kachuya, bloc Kikongo, Bel Air, Finestan et d'autre part de valoriser les nouveaux lotissements de la contrée dans la commune de Kisangani ainsi que de faciliter la circulation des personnes et de leurs biens. Et je les invite par ailleurs à en faire un bon usage pour sa durabilité.
Signalons que pour un accès facile à ces blocs, 3 km de voirie reliant le bloc Kikongo au Sumestan sont actuellement en réhabilitation. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Retournons à Beni pour parler de l'inauguration d'une classe numérique bien équipée de matériel informatique hier samedi à l'Institut Bungulu. C'est une initiative de deux fondations dont Vodacom Congo et Cédric Bakambu, le footballeur international congolais. Une satisfaction pour les responsables de cette école ainsi que de la sous-division de l'EPST Beni qui pense que ceci est un outil pour booster davantage la connaissance des élèves. Marc Marofimbo, reportage.
Cette initiative découle du projet de la plateforme de formation en ligne Vodaedic, qui est un support efficace au système éducatif national qui utilise le programme national d'enseignement avec les cours au standard international. Une satisfaction pour le préfet de l'Institut Bungulu, François Xavier Kambese.
Un besoin sociétal, non seulement de la communauté de l'Institut Bungulu, mais de toute la crème intellectuelle de la ville de Beni en particulier, de perfectionner la qualité scientifique pour tous les chercheurs soucieux de performance et compétences.
Astrid Linda, directrice de Vodacom Congo, a parlé de ce projet ainsi que ses avantages.
Celle-ci a été aménagée avec tous les équipements nécessaires pour son bon fonctionnement. C'est notamment la mise en état de la salle, dotation des tablettes numériques, d'une connexion Internet, des écritoires, ce qui permettra à nos enfants d'avoir accès aux mêmes sources d'informations comme les autres enfants à travers le monde.
Signalons que les bourses Vodaeduc, équivalent à 600 000 francs congolais, ont été remises aux élèves lauréats du concours organisé par Vodacom pour leur scolarité. scolarisation et ceci pour une prise en charge scolaire de 3 ans. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Après sa disparition, le monde du football rend hommage au Ghanéen Christian Atsou. Christian Atsou, international ghanéen et ancien joueur du FC Porto, de Chelsea ou encore de Newcastle, fait partie des victimes du tremblement de terre qui a touché la Turquie et la Syrie début février. De nombreux clubs, personnalités et anciens coéquipiers lui ont rendu hommage après avoir appris la nouvelle de sa disparition samedi 18 février. L'ancien président américain Jimmy Carter, âgé de 98 ans et en soins palliatifs chez lui, a indiqué sa fondation dans un communiqué publié samedi. Après une série de courts séjours à l'hôpital, l'ancien président américain a décidé aujourd'hui de passer le temps qui lui reste avec sa famille et de recevoir des soins palliatifs plutôt qu'une intervention médicale supplémentaire, a-t-elle fait savoir. Jimmy Carter a été président des États-Unis d'Amérique de 1977 à 1981.
L'invité.
Notre invité est le coordonnateur des affaires civiles de la MONUSCO à Beni, Mero Awangasi. Nous parle de la fermeture de la base militaire de la MONUSCO de Mutuanga dans les secteurs de Rwenzori, ainsi que des mécanismes mis en place avec les acteurs clés de la sécurité afin de redynamiser les actions de la protection des civils. Mero Awangasi s'entretient avec Marc Marofimbo.
Mero Awangasi, bonjour.
Bonjour, Mac.
Que peut-on retenir de cette activité que vous avez pris le lead ce jeudi ici à Mutuanga avec les représentants de toutes les couches de la population, les services de sécurité ainsi que les responsables du secteur de Rwenzori?
Ça rentre dans l'ordre normal des choses, la procédure de fermeture des bases de la MONUSCO. Nous sommes là à Mutuanga pour officiellement échanger avec les autorités, mais pas que les autorités, les représentants de la société civile pour les informer officiellement du départ de la MONUSCO physiquement de Mutuanga. Mais comme vous le savez, il faut discuter des mesures qui ont été mises en place pour continuer à couvrir cette zone, même après le départ physique de la MONUSCO de cette localité.
Cette sortie responsable nécessite aussi un renforcement des capacités des acteurs qui vont rester après la sortie de la MONUSCO. Y a-t-il des mécanismes mis en place pour répondre à cette préoccupation préalable?
Les besoins de renforcement des capacités restent dynamiques et continuent en réalité. Donc nous continuons à couvrir cette zone et comme je l'ai dit, les besoins de renforcement des capacités, nous pouvons, comme prescrivent les SOP, de temps en temps organiser des missions chambre d'évaluation après la fermeture de la base ici. C'est autant d'opportunités pour venir avec des sessions clés. Les collègues des droits de l'homme, Child Protection, les collègues de DDR et autres sessions concernées pour venir renforcer les capacités des acteurs de la société civile. Chaque session a son point focal et nous les mettons ensemble. Par exemple, les membres du LPC, ils demandent que vont devenir les LPC d'ici. Ma préoccupation, c'est que ces structures-là vont continuer à appuyer les autorités à travers les efforts dans le cadre de la gouvernance sécuritaire. Et ils vont trouver leur ancrage au niveau des structures, des mécanismes officiels qui sont en place et que nous continuons de renforcer par ailleurs.
Et alors, comment les actions de la MONUSCO se coordonneront dans cette région après sa sortie physique, comme vous le soulignez tantôt?
Nous avons une présence des FADC ici, c'est déjà une assurance. Et les FADC continuent à travailler avec la MONUSCO, donc il y a des mécanismes en place. Comme je l'ai dit, il faut que de plus en plus la communauté recourt systématiquement aux autorités et aux autorités de coordonner avec les partenaires de la MONUSCO pour juger de l'opportunité de déployer des unités pour appuyer selon la situation qui va prévaloir ici. Mais nous espérons que avec la collaboration qui est en place, avec les mécanismes qui ont été mis en place, la protection, c'est une question de prévention. Donc il faut que la vigilance soit. Mon appel, comme vous le voyez, c'est de lutter contre la désinformation. C'est d'être près des autorités et d'aller à la source de l'information. Donc la MONUSCO ne quitte pas la zone. Vous êtes bien informé de notre stratégie de protection par projection. Donc la base de Kilia pour l'instant est encore en place. Je ne peux pas dire ce qui va arriver dans les semaines, les mois à venir, mais pour l'instant, de Kilia, en appui aux autorités ici, que ce soit les autorités administratives, les autorités militaires, je pense que le mécanisme est en place. Et les points focaux restent également très actifs avec les numéros CAN qui sont là. Et comme je vous l'ai dit, dans le cadre de la transition, nous travaillons déjà avec des partenaires pour voir quelle structure est à même de relayer, de continuer à coordonner les efforts de mécanismes d'alerte communautaire ici au niveau de Mutanga.
Et si on peut parler des recommandations clés afin de booster les mécanismes de la protection dans cette zone, lesquelles seraient prioritaires?
Or, des recommandations clés, il y en a beaucoup. La préoccupation de la communauté, c'est comment est-ce qu'ils vont désormais être protégés ici. Moi, j'ai l'assurance, bien que ça reste très dynamique, comme je l'ai dit, les FADC sont ici. La MONUSCO ne quitte pas définitivement la zone. Et la protection, c'est d'abord la priorité du gouvernement. Les structures sont en place et le renforcement des capacités continue. Donc, demander à la hiérarchie de la FADC quels sont leurs rapports avec les FADC, avec la MONUSCO. Et vous allez vous rendre compte que la MONUSCO travaille en bonne intelligence avec les FADC, les autorités policières également. Et nous, substantifs, nous sommes en appui à la société civile et à l'autorité, etc. Donc c'est comme ça que ça va continuer à se faire.
Mero Amansi, merci.
Merci à vous.
Ainsi prend fin cette édition coordonnée par Noëlla Luzitu Kabambi et mise en onde par Dieudonné Nyangasa. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis.